Bonjour.
Bonjour.
Ben, je vais commencer par te demander de te présenter et dire un peu quel a été ton parcours jusqu'à maintenant pour arriver dans ce studio.
Je m'appelle Victor, je travaille pour Unlimited Tamil Nadu, donc on est un incubateur d'entreprises sociales basé à Auroville. Donc en fait ce qu'on fait c'est qu'on accompagne des porteurs de projets qui sont des projets d'entreprises sociales et on les aide à concrétiser en fait leurs projets. Donc ça va de l'élaboration du modèle économique à la validation par le marché et puis jusqu'à la structure juridique, etc.
Mais qu'est-ce qui fait que tu te retrouves à Auroville? Est-ce qu'il y a une raison particulière? Comment raconte-nous un peu ce parcours-là.
Un parcours. Ouais. Alors en fait, je pense que j'ai toujours su que je voulais travailler dans le secteur du développement. Je savais pas vraiment par quelle modalité, j'ai un peu tâtonné. Donc j'ai eu une expérience auprès de la Banque mondiale à Paris. J'ai travaillé dans une petite ONG dans le Tamil Nadu. Après j'ai eu une expérience aussi en microfinance. Je travaillais pour Babylone, c'est une plateforme de financement de microprêts
en ligne
française. Ouais. Et à chaque fois il y avait toujours quelque chose qui me dérangeait un peu dans la modalité d'impact. Et puis j'ai découvert l'entrepreneuriat social et là c'est quelque chose qui m'a complètement conquis. Et en fait, ce que j'ai aimé dans l'entrepreneuriat social, c'est que c'est vraiment la dynamique économique, la dynamique d'entreprise au service de l'intérêt général, quoi, au service de l'humain. Donc c'est la logique de l'innovation, de l'initiative, l'idée d'entreprendre, tout ça au service de problèmes sociaux, précarité, accès aux soins, accès à l'alimentation, l'énergie, l'environnement, tout ça. Donc moi c'est quelque chose qui m'a beaucoup plu.
Et tu l'as découvert à quel moment en fait? L'entrepreneuriat social.
Je travaillais dans cette petite ONG au Tamil Nadu.
Ouais.
Et puis au fil de mes voyages, quoi, j'ai atterri à Auroville.
Ouais.
Et puis j'ai appris que Unlimited Tamil Nadu était en train d'être fondé par Raispur, donc c'est un Eurovillien, un Danois, qui est lui-même Ashoka Fellow. Donc Ashoka, c'est un réseau mondial d'entrepreneurs sociaux. Et ça m'a beaucoup plu. Et du coup, à ce moment-là, je suis revenu en France et j'étais en train de boucler mes études. Donc j'ai une formation de management. Et puis voilà, et donc dans le cadre de ma césure, je suis reparti. Et puis c'est là que j'ai commencé j'ai fait du volontariat auprès d'Unlimited Tamil Nadu il y a 2-3 ans. Et après j'ai continué, j'ai bossé dans une boîte de conseil pour entrepreneurs sociaux à Delhi. Et puis voilà, j'ai fini mon master en étudiant à Bangalore. Et puis j'ai enchaîné sur un boulot à Unlimited India, donc le siège d'Unlimited à Bombay. Unlimited India, c'est à Bombay.
D'accord. Ouais. Ok.
Et voilà, donc un an et demi à Unlimited India à Bombay. Et puis là, je suis revenu là il y a 2 mois à Auroville.
Et tu es là pour quelques mois. Hein,
Pour au moins un an.
Ouais. Un an. Ouais, très bien. Ok. Donc, est-ce que tu peux me dire comment, de ton point de vue, l'entrepreneuriat social est perçu ici à Auroville? Est-ce qu'il y a une compréhension ou il y a quelque chose qui est adopté, qui est soutenu, où il y a vraiment un élan autour de cette activité-là? Ou est-ce que c'est quelque chose où il y a de la communication, de l'échange, du partage à faire pour faire progresser ça?
Oui, c'est très intéressant, ouais, parce que c'est assez paradoxal, parce que Auroville, dans l'idée, c'est vraiment c'est une expérience, quoi, c'est un laboratoire, donc c'est vraiment ça foisonne d'innovation, d'initiatives comme ça.
Oui.
Donc il y a vraiment un contexte très favorable à l'émergence de nouvelles idées. Mais il y a quand même une grosse dichotomie à Auroville entre les activités commerciales et les activités de pur service. Et nous, ce qu'on propose avec l'entrepreneuriat social, c'est un modèle hybride qui allierait l'économique et qui le rendrait au service du social. C'est-à-dire qu'en fait, le profit dégagé sert à pérenniser l'activité et donc il sert le social en définitive. Et donc c'est juste un instrument et en fin de compte, Le social, c'est le but ultime d'une entreprise sociale, quoi. L'impact, c'est les conséquences que l'activité a sur les bénéficiaires en définitive. Et donc c'est vrai que ça, c'est quelque chose à Euroville qui peine encore un peu à émerger. Les gens ont une vision très très binaire, très très manichéenne un peu de l'entreprise type capitaliste où le but c'est de maximiser les profits, et de l'ONG traditionnelle où on a vraiment une activité à but non lucrative, où le but ultime c'est vraiment juste ces problèmes sociaux, quoi. Donc il y a un gros effort de communication à faire pour promouvoir ces nouvelles formes d'entrepreneuriat social. Mais on a eu quand même plusieurs projets qu'on a suivis dans l'incubateur à Auroville. Par exemple, je pense à Ecofam. Mmh. C'est un des premiers projets qu'on a suivis. Mmh. Donc en fait, l'idée d'Ecofam, c'est de promouvoir des pratiques saines dans la menstruation, des pratiques qui sont saines, pas chères, écologiques, et puis dignes dans un contexte en Inde où la menstruation c'est quelque chose de très tabou. Mmh. Et donc en fait, ce qu'elles font, c'est qu'elles emploient et elles forment des femmes qui produisent des serviettes hygiéniques réutilisables. Mmh. Et qu'elles vendent en Inde rurale et puis aussi par d'autres canaux mondialement. Et puis elles font des programmes de sensibilisation et d'éveil à des pratiques des menstruations saines.
Donc il y a eu beaucoup de programmes avec Auroville ou finalement peu par rapport à l'ensemble de vos activités?
Mais je dirais que on a sur trois ans on a soutenu une vingtaine de projets. Je dirais qu'il y en a peut-être six qui sont auroviliens.
Tu peux me dire quels sont ces projets?
Par exemple, donc Ecofem en fait partie, ouais. Wasteless aussi. Wasteless, Ribou et Chandra, c'est une équipe de frères et sœurs.
Ouais, ouais.
Et ils ont créé un curriculum à destination des enfants pour leur apprendre à avoir une perception différente de l'environnement, du recyclage, de la consommation. Et donc, à partir de ce grand curriculum, ils créent des produits dérivés, des jeux de cartes, des jeux de société, essayer de faire passer leur message. Sinon, il y a Upcycling aussi, ça c'est un des projets qu'on suit en ce moment. L'idée de Upcycling, c'est changer notre relation aux déchets et au recyclage, en fait. Donc c'est pas recycler, c'est upcycler, surcycler en fait.
D'accord.
Donc c'est transformer des produits qu'on aurait jetés, n'importe quel déchet, en produits à valeur ajoutée. Donc ça peut être des accessoires de mode, ça peut être des meubles par exemple en Tetra Pak. Donc ça en fait partie. Sinon, on a aussi on a des projets aussi qui dépendent de Pichandicoulam, la forêt Pichandicoulam.
D'accord, avec Joss.
Avec Joss, ouais.
D'accord.
Donc là, on en a deux. Un des projets, c'est Amirta. Donc en fait, Parvati, c'est une femme qui est issue des communautés, des villages alentours. Et en fait, son idée, c'était réhabiliter. C'est aussi en ligne avec Pichandicoulam, c'est réhabiliter. Les pratiques traditionnelles de médecine à base de plantes. Mmh. Et en même temps, fournir des opportunités d'emploi à des femmes dans des communautés, quoi.
D'accord.
Qui souvent sont veuves ou ne peuvent dépendre que de leurs propres revenus pour subvenir aux besoins de leur famille. Donc, Parvati a créé cette communauté, donc ce groupe de 15 femmes qui gèrent le groupe et qui sont en même temps propriétaires du groupe. D'accord. Et donc elle les forme à la collecte des plantes, à la production et à la distribution dans les espaces ruraux. Okay. Et tout ça.
Donc là, c'est quand vous intervenez à Auroville auprès d'unités d'Auroville, mais la plupart des actions que vous avez se trouvent dans la périphérie d'Auroville ou dans le Tamil Nadu en général.
Oui, c'est un mix. C'est-à-dire qu'on a commencé, beaucoup de nos projets étaient basés dans Auroville. Parce que justement, Auroville, c'est un vivier d'innovation. Donc les projets étaient là et voilà. Là, on a aussi de plus en plus aussi par le bouche à oreille, on a de plus en plus de gens qui viennent nous voir qui ne sont pas d'Auroville. On a quelques entrepreneurs qui sont basés à Chennai. On en a un à Coimbatore. Et puis on en a à Pondichéry aussi.
Mais qui ont tous la vision d'un travail social.
Oui, ça fait partie de notre processus de sélection.
Il y a un cadre qui est bien délimité.
Oui, on a un processus de sélection. On s'intéresse, on a en gros 4 critères. Mm-hmm. C'est les 4 I. Un, c'est d'abord c'est l'individu. Est-ce que l'individu est motivé par la cause sociale? Est-ce qu'il est dédié à son projet? Le deuxième, c'est l'idée. Est-ce qu'elle est innovante? Est-ce qu'elle est réaliste? Est-ce qu'il y a un besoin? Le troisième, c'est l'impact. Est-ce que le porteur de projet connaît ses bénéficiaires? Est-ce qu'il a fait ses recherches? Est-ce que l'impact est potentiel est là? Est-ce qu'il y a une recherche là-dessus? Et le troisième critère, c'est l'incubation. Donc, quatrième critère, c'est l'incubation. Donc, c'est quand nous, on va travailler avec cet entrepreneur, est-ce qu'on va arriver à lui ajouter de la valeur, ajouter de la valeur à son projet?
D'accord. Donc ça, ce sont les critères de sélection.
Voilà, ouais.
Hein, les 4 critères de sélection. Et puis ensuite, vous intervenez.
Exactement. Ouais. Donc on fait un appel à projet. Ouais. On a des candidatures qui viennent. Ouais. Donc ça dure 3 mois. Donc pendant lesquels on.
Et donc sur les 3 ans d'existence, hein.
Ouais.
Est-ce que vous avez pu déjà faire un bilan de vos interventions pour voir, en pourcentage qui marche et ce qui marche pas, parce qu'il y a forcément un taux. D'échecs et puis de succès.
Ouais.
Et ce vers quoi vous avez envie de progresser. Voilà.
Mais je dirais que c'est aussi beaucoup dû au type de projet qu'on soutient, c'est-à-dire qu'Unlimited India et Unlimited Tamil Nadu par extension, on s'intéresse à des projets qui sont très précoces. Donc on a des entrepreneurs qui viennent, qui sont encore en train de travailler sur leur idée. Donc on a 2 niveaux de soutien, donc ça c'est 2 niveaux d'accompagnement. Donc le premier niveau d'accompagnement, ça va être de les aider à structurer leur idée, à structurer leur modèle économique. Donc étant donné qu'on s'engage très tôt, il y a plus de chances que le projet ne réussisse pas. Mais là en termes de taux, je dirais qu'on a quoi, 20% des projets qu'on a suivis qui n'ont pas donné suite.
D'accord. Il y a 80% de réussite.
Exactement. Ouais. On peut voir comme ça.
D'accord. Quels sont les challenges, les défis que vous devez auxquels vous devez faire face en fait intérieurement.
Ouais, ouais. Ben je dirais que le premier défi, si on parle d'incubation, c'est vraiment la localisation. C'est-à-dire que il y a d'autres incubateurs Unlimited en Inde. Il y en a un à Delhi, il y en a un à Hyderabad, un à Bombay. Donc ils sont basés dans des centres urbains. Donc en termes d'accès, ils sont très proches des porteurs de projets et puis tout ça c'est très facile. Nous on est basé à Auroville et beaucoup de nos projets, donc certains sont à Auroville, d'autres sont ailleurs dans la biorégion, d'autres sont à Chennai. Donc c'est déjà un premier challenge, comment est-ce qu'on peut continuer à les accompagner en étant pas forcément très accessible. Donc on développe des moyens d'accompagnement virtuel. Donc là on est en train de développer par exemple un e-learning où on est en train de codifier par exemple nos
e-learning, traduction parce qu'on est en français hein,
ouais. Apprentissage en ligne.
D'accord. Ouais.
On est en train de transvaser un peu nos contenus sur des supports par exemple sur une clé USB que l'entrepreneur pourrait visionner de chez lui quoi, sans forcément avoir accès à internet. Et donc il peut suivre nos programmes d'accompagnement de chez lui. Donc je dirais que c'est notre plus gros challenge, c'est le fait d'être ici, pas dans un centre urbain. Et ça vaut aussi pour les accès, quand les accès à des experts ou à des financeurs. C'est à double tranchant parce que Auroville attire beaucoup de monde, mais quand on parle de gens qui sont là dans la durée, c'est quand même plus pratique d'être dans un centre urbain en termes d'accès. Une autre des difficultés qui est également liée au type de projet qu'on suit, c'est notre viabilité. C'est-à-dire qu'on ne peut pas non plus demander aux porteurs de projets de payer pour nos services parce que c'est des projets qui sont encore très précoces. Donc on trouve d'autres moyens pour subvenir, pour couvrir nos coûts. Donc certains de ces moyens, c'est faire de la consultation, organiser des séminaires avec des entreprises ou des cadres qui viendraient à Auroville et qui veulent se frotter à un peu une autre façon de faire du business. Donc c'est ce que notre fondateur Reiss appelle le leadership holistique. Donc on a quelques avenues comme ça qui nous permettent de générer des fonds.
Et du point de vue de la relation avec Auroville, il y a des soutiens qui se font de l'intérieur ?
C'est, du point de vue aurovillien, c'est plus compliqué. C'est-à-dire que...
Ça m'aurait étonné. Hein.
C'est-à-dire que certains de nos projets ne sont pas auroviliens. Et ouais. Donc, par exemple, certains par exemple, Ecofam ou Amirta, dont j'ai parlé avant, eux, ils ont bénéficié directement d'aide d'Auroville. Que ce soit de CEDAB ou etc. Mais nous, en tant qu'incubateur, et puis ça vaut pour n'importe quel investisseur, c'est-à-dire que l'impact, la chaîne d'impact est plus longue en fait. Donc on finance pas directement un projet qui impacte des bénéficiaires, on finance un catalyseur en fait qui va en fin de compte aider un projet qui va impacter des bénéficiaires.
Donc quand tu dis on finance, vous financez réellement, c'est-à-dire vous donnez des sous à ces gens qui lancent leur structure.
Alors le modèle de départ, oui, on a un volet de support non financier et un volet financier. Après, ça dépend aussi de nos capacités de financement à nous. C'est-à-dire que si les années où on a moins de fonds, on limite un peu notre soutien financier, on le fait de manière compétitive. Donc pas sur tous les projets, mais sur certains projets. Ou alors on aide les porteurs de projets à lever leurs fonds directement. Ouais. Par exemple, hier, on a organisé une session de pitch pour trois de nos projets auprès de 9 PDG de YPO, c'est Young President's Organization. Donc ouais. C'est un réseau global de PDG.
Indien.
Ces gens-là étaient indiens, ouais, mais c'est le réseau est global. PDG qui ont moins de 40 ans. Donc voilà, donc on organise aussi voilà, des espaces où ils peuvent pitcher pour des entreprises. D'accord. Pour du soutien financier et non financier.
Ok, ok. Parce que si je ne m'abuse, cette organisation aussi a été financée jusqu'à maintenant par Unlimited India.
Oui.
Et que cette aide, elle va s'arrêter parce que ça fait partie du contrat, c'est-à-dire que vous devez trouver vous-même votre propre autonomie et votre organisation. Et est-ce que cette perspective-là est déjà en construction ou est-ce que c'est encore quelque chose vraiment qui s'élabore et qu'il y a parce qu'il y a de la viabilité même de votre entreprise quoi.
Exactement.
Qui est en jeu,
oui, quoi. Oui. Il y a la viabilité de l'incubateur. Oui, c'était donc on a commencé il y a 3 ans. Donc là, c'est notre 3e année. À chaque fois, leur soutien financier est dégressif. Donc là, c'est la dernière année où on sera soutenu. Mais bon, ces conversations-là, elles ont commencé dès le début. Comment peut être viable sans leur soutien.
Ouais.
Après, on a aussi une feuille de route de la part d'Unlimited India. Donc eux dépendent beaucoup de levées de fonds auprès de bailleurs institutionnels et de mécènes.
Ouais.
Donc c'est aussi un choix de modèle.
Ouais.
Nous, on aimerait plus développer une activité de génération de revenus.
Ouais.
Aussi parce qu'on est moins performant en termes de levée de fonds auprès de bailleurs.
Ouais, ouais.
Donc on est encore en train de chercher notre modèle. Oui.
Ouais. D'accord. Ouais. Donc il y a aussi de ce côté-là un peu d'insécurité, un petit peu de tension de ce côté-là. Mm-hmm. Mais c'est paradoxal, hein, parce qu'en fin de compte, vous allez soutenir et développer des projets qui sont autour de vous et votre propre projet de pérennité, il est pas gagné quoi, c'est pas
oui
gagné,
oui là. Non, c'est sûr, ouais, c'est sûr, voilà. Que c'est le
et donc c'était un peu le but de mon entretien avec toi, Victor, c'est de faire connaître votre travail, parce qu'il me semble que auprès de la population francophone, en tout cas à VI France, mais peut-être aussi en Belgique, en Suisse, le travail que vous faites est pas très connu. Et donc moi je voudrais t'inviter, puisqu'on arrive un peu à la fin de notre entretien, qu'est-ce que ce serait par exemple quel genre de soutien tu pourrais attendre, par exemple, d'organisations extérieures, de la VI internationale en France ou à l'étranger, francophone ou anglophone ou allemande?
Il y a plusieurs volets de soutien, effectivement. Bon, il y a un soutien non financier, c'est-à-dire que si des individuels, des particuliers ou des organisations cherchent à devenir mentor pour certains de nos porteurs de projets, à leur donner accès à des marchés ou à leur donner accès à des réseaux, ils peuvent venir voir notre site web et puis, et puis consulter ces projets et puis les contacter directement ou par nous.
Ça, c'est une démarche que chacun peut faire en venant vous voir.
Oui.
Mais comment toi tu vas voir les gens?
Je dirais que c'est beaucoup de. On parle d'abord de nos projets, des projets qu'on soutient. Parce que c'est plus facile, c'est un discours plus facile
à saisir.
À saisir, oui, je dirais. Donc, c'est-à-dire que si, par exemple, on a un entrepreneur qui travaille dans. Par exemple, dans les. Par exemple, en upcycling, il travaille dans le recyclage.
Ouais.
On va les mettre en lien avec Tetra Pak, par exemple, et on va voir s'il n'y a pas des possibilités que eux financent une partie de leur projet.
Mm-hmm.
Donc, on va regarder quelles sont les synergies possibles entre l'entrepreneur et n'importe quel groupe qu'on ira voir.
Mm-hmm.
Et s'il y a des possibilités de financement, dans ce cas, nous, on prendrait un pourcentage sur le matchmaking qu'on a fait avec le porteur de projet.
D'accord. Ok. Mais s'il y avait un message à faire parvenir dans d'autres parties du monde, ça serait lequel?
Ce serait que c'est on agit à un échelon intermédiaire qui est, je dirais, crucial. C'est-à-dire que on a un peu un rôle de catalyseur, donc un peu d'activateur de talent. On cherche un peu à révéler des vocations d'entrepreneurs qui elles-mêmes vont impacter des bénéficiaires. Donc on est un peu à ce stade où un peu comme une abeille qui irait un peu polliniser à droite à gauche. Il faut de plus en plus d'initiatives comme ça qui développent ces écosystèmes d'accompagnement autour des entrepreneurs pour les aider à fleurir et puis à eux-mêmes développer l'entrepreneuriat autour d'eux.
Écoute, en tout cas, je te remercie d'avoir témoigné.
Merci de m'accueillir.
D'avoir porté la parole de Taminadou
Unlimited.
Ouais, ouais. Et puis... je te souhaite un bon séjour ici à Rouville.
Merci. Ouais. Merci
beaucoup. Et puis, ce qu'on pourrait faire aussi, c'est se retrouver dans un an, c'est-à-dire avant que tu repartes, et puis de nous faire part de...
Faire le point
de l'aventure, où on en est, etc. Et puis que ça ne s'arrête pas uniquement à un moment, mais qu'on puisse aussi donner une suite à ça.
Avec plaisir.
Merci, Victor.
Merci.